Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité, c'est l'humoriste Nora Hamsaoui, c'est son nouveau one-man show. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray avec nous pour clore l'émission. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Bruno, tous les jours, vous observez ici les étrangetés médiatiques et vous nous faites le résumé d'une séquence qui vous a particulièrement marqué. Une fois n'est pas coutume, hier après-midi, vous avez regardé non pas une émission de télévision, mais deux. Des chiffres et des lettres sur France 3 et JLC Family, c'est sur TFX.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre l'un des programmes les plus anciens du paysage audiovisuel français et l'un de ses plus récents avatars, je vous raconte. Hier après-midi, j'ai donc eu envie de regarder ceci. Des chiffres et des lettres. Seulement voilà, j'ai été très choqué parce que j'y ai découvert, figurez-vous, qu'une certaine Patricia, celle qui a commencé en choisissant les lettres.
C'est Patricia qui choisit le nombre de voyelles.
4 voyelles.
S'est mise à maltraiter la langue française dans des proportions absolument insoutenables. Oui, vous m'avez bien entendu, Philippe. Ah. Patricia a inventé des mots qui n'étaient même pas dans le dico.
Et le mot de Patricia ?
Bitoune.
Bitoune, n'importe quoi. Alors, je suis allé me réfugier sur TFX qui diffuse tous les après-midi, au même moment, une émission de télé-réalité absolument parfaite, JLC Family. Une riche idée, car là, une grande question linguistique était à l'ordre du jour. Tendez bien l'oreille, car dans cette émission, l'ingénieur du son travaille à temps partiel.
Ça veut dire quoi, une voyelle ?
Ça veut dire quoi ? Une voyelle, c'est demandé Jazz. Alors Jazz, c'est la compagne de Laurent. Laurent qui s'est immédiatement étonné.
Quoi ? C'est parce que c'est une voyelle ?
Car, contrairement à Patricia des chiffres et des lettres, Laurent s'exprime dans un français parfait.
Non, pas savoir c'est quoi des voyelles, ça c'est grave.
Et pas savoir c'est quoi la grammaire, passe encore, mais pas savoir c'est quoi les voyelles, ça le rend dingue. Du coup, Laurent a demandé à son ami Sissika si lui connaissait la définition du mot voyelle. Et Sissika, eh ben, il lui a répondu ça.
C'est quoi ?
Oh ! Pauvre Laurent, il était dans tous ses états et affligé, il est alors allé se confier à la production de l'émission.
Le mec ne sait pas c'est quoi des voyelles. Et quand je dis le mec, c'est Jazz aussi ne sait pas c'est quoi des voyelles.
Voilà, alors je vois bien à votre mine étonnée, Philippe, que vous ne savez pas c'est quoi la JLC Family.
J'avoue.
Et que vous vous demandez c'est quoi la raison pour laquelle TFX leur consacre un programme et que je vous en cause ce matin. Eh bien, la JLC Family, ça raconte les turpitudes de Jazz, une influenceuse de 29 ans qui s'est rendue célèbre en participant à d'autres programmes de télé-réalité et de son mari, Laurent, 26 ans, qui a fait fortune en créant une application de paris sportifs billionnaire avant de se faire tatouer Freedom au-dessus du sourcil gauche. Bien. Alors, devant les précisions de mes explications, Philippe, j'entends déjà que vous vous dites dans votre tête exactement la même chose que Laurent lorsqu'il a découvert la méconnaissance crasse et néanmoins sémantique de son épouse.
Oh mon Dieu, je me casse.
Eh bien, vous avez tort. Restez. Il faut regarder la JLC Family, car la famille de Jazz et Laurent Correa, JLC, pousse bien plus loin les codes de la vacuité télévisée que le modèle qui les a pourtant grandement inspirés, les Kardashians. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils habitent à Dubaï, tout le monde ne peut pas aller à Ibiza, et ils s'emmerdent à 100 sous de l'heure toute la sainte journée. Et quoi de plus difficile, Philippe, que de filmer le néant ? Rien. Et pourtant, JLC Family y parvient parfaitement. Ils en sont déjà à la saison 5. Et avec une toute petite histoire de voyelles, ils réussissent miraculeusement non seulement à produire une émission qui dure une plombe, mais également à retracer toute l'histoire de l'audiovisuel en France.
Moi, ça me parle, le mot, en tout cas, parce que j'ai déjà entendu ma grand-mère regarder l'émission consonne et voyelles ou je sais pas quoi, là.
Voilà, alors imaginez un peu, hein, si après les voyelles, la production de l'émission a la bonne idée de leur faire découvrir les consonnes, on n'est pas à l'abri de retrouver Sissika sur France 3 à la place de Patricia, même si, pour l'instant, il manque encore un tout petit peu d'entraînement.
Attends, voyelle, je crois, c'est qu'il y a deux lettres, non ?
Voilà, alors non, Sissika, c'est pas tout à fait ça, mais vous n'étiez pas loin.
Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. Caroline Speller, je me tourne vers vous. Vous avez bien rigolé comme moi. Le programme de votre indispensable ce matin sera aux alentours de 10h38.
Oui, on change un peu d'ambiance parce que nous allons voyager dans un Japon féodal de la fin du XVIIe siècle aux côtés d'un samouraï déchu dans le manga culte Lone Wolf and Cub.
Dans un instant, Nora Hamsaoui avec nous pour parler de son nouveau one-man show. Mais d'abord, c'est musique Julien Doré, nouveau titre. Je ne sais pas si c'est un nouveau titre, c'est le titre « L'arme fatale » sur Europe 1.
Sur ma bouche, les arguments et les baisers. Je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité. Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai l'alarme fatale, mais j'ai rien oublié. Tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Elle est pas belle la vie. Que j'avale un peu de leurs idées. La vie me fait mal avec ses coups de dé. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Il faut les nettoyer. On éteint la flamme avec de l'eau salée. La nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé.
L'arme fatale, Julien Doré sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Nora Hamzaoui.
Bonjour Philippe Vandel.
Content de vous accueillir à nouveau, humoriste, votre premier one-man show. Vous avez valu une nomination au Molière de l'humour. On vous a également vu dans Quotidien sur TMC. On entend vos chroniques radio chez nos confrères de France Inter, voire un long monologue, on va peut-être en reparler. Vous êtes aussi comédienne, on vous a repéré chez Assayas, Olivier Assayas, Double Vie, puis Eleonore, réalisé par Amro Hamzaoui. Il y a un nom qui ressemble au vôtre, c'est votre frère. C'est lui qui avait fait la comédie romantique 20 ans d'écart, qui avait très bien marché. Et là, votre nouveau spectacle s'appelle Nouveau Spectacle. Vous aviez la flemme ou c'était pour faire un petit trait d'humour comme ça ?
Non, mais en plus, il s'appelle Nouveau Spectacle, alors que là, il est nouveau, alors qu'il a plus de 2 ans, parce qu'il était nouveau juste avant le Covid. Et c'est vrai qu'idéalement, j'aime pas tellement les titres de One Man Show, parce que je trouve qu'on dit souvent « je vais voir nanana, le nom de la personne », plutôt qu'une histoire, on va voir quelqu'un en fait. Et donc, je voulais juste signifier que ce n'était pas le premier spectacle qui était nouveau. Donc, j'ai mis Nouveau Spectacle, mais sans me dire que ça allait forcément être son titre. Donc, ouais, un peu la flemme.
J'avoue. C'est en tournée en ce moment dans toute la France. Ce sera au Casino de Paris les 25 et 26 janvier. Et c'est important de donner cette date, surtout celle du 26, parce que c'est la semaine prochaine. Et vous serez en même temps en direct sur TMC.
Ouais.
Ça vous fait peur ?
Ça me fait hyper peur, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait. J'avais envie... Je trouve que c'est le meilleur moyen de capter un spectacle. Je trouve que déjà le one man show perd énormément quand il est filmé parce qu'on n'est pas dans le, enfin voilà, on n'est pas dans la salle, on perd et tout. Je trouve que quand c'est monté, il y a souvent des gros plans de coupe artificiels sur les gens hilars au bon moment, j'ai l'impression qu'on donne un mode d'emploi de là où il faut rire et tout qui me gêne un peu. Et que j'aime tellement cette espèce de d'adrénaline, de truc de spectacle vivant que je me disais le meilleur moyen de de transmettre ça, c'est de le faire en direct, comme j'avais fait pour le premier spectacle. Alors ouais, j'ai peur, mais c'est bien.
Est-ce qu'on peut raconter ce que ça raconte? Moi, je l'ai vu, j'ai vu la captation. Il y avait un fil directeur ou pas du tout? Vous êtes partie au fil de la plume pour faire ce spectacle?
J'aime bien. Non, je suis pas sûre qu'il y ait eu de fil directeur. En tout cas, pas dès le départ. À la base, moi, j'ai voulu raconter par rapport au premier spectacle où c'était une jeune femme qui est en couple, mais qui découvrait le couple, qui découvrait le travail, qui découvrait un peu la vie sociale, qui découvrait la vie d'adulte. Là, en effet, ça fait 10 ans qu'elle est en couple. Ah, elle a un enfant. Oh.
Ce que vous racontez sur le couple, c'est pas possible.
En même temps, franchement, je crois que ça fait beaucoup de bien, quoi. Je crois. Mais en effet, je raconte l'usure du couple. Je raconte là les moments de sans libido. Je raconte à quel point la maternité vient affecter tout ça.
Vous dites que vous voyez le temps qui passe via vos rapports avec les femmes.
Ouais.
Normalement, c'est le rapport avec les hommes. Vous, c'est avec les femmes. Expliquez.
Ouais, je raconte que souvent, on dit, dans la peur de vieillir, dans le coup de vieux, souvent, les gens autour de nous disent « Ah, tu vas voir, les mecs, ils te regardent plus pareil passer 30 ans, ou quand t'es mère, les mecs te regardent plus pareil. » Et je dis que moi, c'est vraiment pas le regard des hommes qui m'a fait un coup de vieux, mais que c'est le regard que je porte sur les femmes. Et je raconte que quand j'étais plus jeune et que je voyais une meuf un peu pouf, je la jugeais. Alors que là, aujourd'hui, je vois une meuf un peu pouf, j'ai envie d'être comme elle, quoi. Et je me dis, elle est jeune, elle s'amuse. Et qu'il y a vraiment un truc où on se rend compte de ça, quoi.
Pourquoi vous dites, je dis que c'est vous ou c'est pas vous dans le spectacle? Dans quelle mesure c'est du je trouve plus le mot, du stand-up?
C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, évidemment, que tout ce que j'écris est sincère et que c'est des observations qui viennent de moi. Je dirais que c'est des émotions qui viennent de moi, mais des situations que j'invente. Mmh. C'est-à-dire que j'aime pas me dire que c'est complètement... J'aime pas quand on rencontre des gens en soirée qui me disent « Ah, t'en feras un sketch » ou « Oh là là, ce qu'ils prennent tes copains ». C'est pas mes copains, c'est pas mes soirées. J'aime pas du tout raconter le présent. Donc, je pars de situations qui me mettent en difficulté, d'émotions qui sont personnelles et de... Ça, typiquement, c'est un regard que j'ai qui est vrai sur les femmes, où je me trouve plus indulgente, plus douce, où je les trouve plus...
Mais c'est un peu vous, non?
C'est une version concentrée et tirée en comédie de moi.
Vous dites, moi maintenant, toute ma dynamique du couple, c'est moi qui surveille si il me mérite encore. Tout ça en survêt, avachi dans le canapé.
Ouais, en lui donnant des ordres et en lui disant, toi la séduction, t'es passé complètement à côté, quoi, alors que moi j'en fous pas une. Ouais.
Non, mais ça, c'est pour faire rire. C'est pas vrai.
C'est pour faire rire. Déjà, je raconte souvent que j'aime bien parler de ce dont j'ai guéri plutôt que de ce dont je vis. Donc, c'est-à-dire que je raconte jamais le moment présent parce que c'est... Enfin, je trouverais ça même impudique et je n'aurais pas de second degré. Mais j'aime bien raconter ce truc que j'observe avec du recul où je me dis, parfois, on souffre de choses qu'on réclame à l'autre, mais on n'est pas capable d'en foutre une. Et ce truc-là, il a existé. Ça a été une dynamique dans mon couple. Je pense que quand on est en couple depuis 10 ans, il y a en effet des phases...
Parce qu'il faut que je retrouve une citation assez incroyable que vous avez faite à Madame Figaro. Je ne sais plus où je l'ai notée, mais ça m'avait vraiment halluciné. Ah, où vous dites, j'ai la chance d'avoir un amoureux très présent qui est un super père. Donc, il y a un moment où vous mentez, soit au public, soit à Madame Figaro.
Mais ça peut être aussi un... Non, je ne mens pas à Madame Figaro. Mais le personnage du mec est un mec générique.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que c'est mon mec. Mais après, il y a aussi des choses... C'est-à-dire que moi, j'estime que c'est moi qui ai un problème dans mon spectacle. C'est-à-dire que je critique
ça,
tout.
Ça, c'est vrai. Alors voilà. Ça, il faut vraiment dire. Ouais. C'est hallucinant à quel point vous ne vous servez pas et vous ne vous donnez pas le beau rôle.
Non, ouais.
C'est ce que faisaient les garçons dans les spectacles d'humour il y a 10, 15, 20, 30 ans.
Ah ouais.
Et maintenant, c'est vous.
En tout cas, j'estime que quand elle le critique, elle est de mauvaise foi. C'est pour ça que quand je dis je lui reproche ça tout en étant avachie sur mon canapé.
Voilà. Et si je peux me permettre un commentaire, c'est frais et c'est réjouissant. Et il était temps.
Merci.
Culture Média continue. Vous restez avec nous, Nour Hamzaoui. Vous restez avec nous, auditeurs, auditrices. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blondel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne et humoriste Nour Hamzaoui. On parle de son nouveau spectacle qui s'appelle Nouveau Spectacle. On va mieux vous connaître avec le portrait Préfame qui parle de Préfame. C'est signé Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Nour Hamzaoui.
Bonjour.
Vous excellez dans l'art de décrypter nos névroses sur scène avec beaucoup d'autodérision. Vous avez été nommée au Molière de l'humour l'an dernier et le cinéma vous tend les bras. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Nour Hamzaoui, vous êtes née à Cannes avant de grandir à Paris, dans un appartement avec une moquette bleu roi et une cuisine toute verte. Vous êtes la benjamine de la famille et enfant, vous êtes très observatrice de ce qui se passe autour de vous. Vous ne croyez pas au Père Noël, mais vous pensez en revanche qu'il y a des lutins dans votre jardin à qui vous donnez des pépins de pommes à manger.
Ouais. Vraiment ?
Oui, et alors pour le Père Noël, c'est pas tellement parce que je suis lucide, c'est parce qu'à l'époque, ma mère me dit juste, vous faites votre liste et vous me dites ce que vous voulez. Donc du coup.
Et après, elle allait chez Intermarché.
Voilà.
Mais les lutins.
Et les lutins, je pense que c'était une histoire que me racontait mon frère. Il y avait, ouais, on avait une cour d'immeuble et donc du coup, j'y croyais pas, mais j'y croyais un peu. Enfin, je croyais surtout, enfin, j'attends la suite puisque je croyais en beaucoup de choses.
Petite, vous portez une cagoule rouge en laine. Vous rêvez d'abord de devenir hôtesse de l'air, alors que vous avez peur de l'avion depuis toujours.
Extrêmement bizarre, ouais.
J'adore l'enchaînement des deux phrases.
Ouais. La cagoule et l'hôtesse de l'air. Puis Nora Hamzaoui, vous voulez devenir fromagère parce que vous trouvez que les fromagères ont l'air épanouies dans leur métier. Et puis finalement, vous vous destinez à une carrière d'actrice. Un chanteur berce toute votre enfance, c'est George Michael.
C'est lui ou la musique que vous aimez, ou les deux?
Mais moi j'ai un vrai truc de fan, c'est-à-dire que c'est évidemment sa musique, mais en même temps, quand on est complètement, complètement fan, un peu, c'est genre j'ai l'impression de le connaître, sauf qu'évidemment je ne le connais pas. Ouais. Genre, on se sent dans le même.
Vous savez, quand on voit qu'elle est fan, elle parle au présent.
C'est vrai.
Alors
pourquoi
qu'il,
bah, ah oui,
non, mais
oui,
il est mort,
oui,
quand même, George Michael.
Oui, je sais, pas je la peine ça, de m'en rappeler.
Non, mais, ouais. C'est dingue.
Pas la peine de me le rappeler, ouais.
À la maison, ouais. Nora Hamzaoui, vous regardez la série Alf, l'extraterrestre. Vous regardez aussi la chaîne Canal Jimmy du câble. Vous découvrez le stand-up avec Seinfeld et l'humour érotico-humoristique dans la série Dream On, même si ce n'est pas tout à fait de votre âge.
Ouais, c'était bien ça.
Ah, c'était extraordinaire.
C'était génial. J'étais beaucoup trop jeune pour vraiment bien en profiter. Mais
Dream On, c'était
génial.
Avec les extraits.
Ouais, exactement.
Il faut raconter ce que c'était. C'était une série. Il y avait ce type-là qui était plutôt un séducteur. Il lui avait des histoires. Et tout d'un coup, une situation lui faisait penser à quelque chose et remontait des vieux stocks de vieux feuilletons qu'ils avaient achetés en noir et blanc, qui repassaient comme ça, qui étaient magnifiés. Et qui avaient donné, au passage, l'idée à Arthur d'écrire Les Enfants de la télé.
Ah bon?
Ouais.
Ah, info supplémentaire, voilà. Dis donc. Nora Hamzaoui, vous êtes aussi la muse des courts-métrages de votre frère aîné Amoureux sur sa caméra Super 8. C'est lui qui vous offre votre premier journal intime avec un cadenas pour commencer à écrire vos pensées débordantes. Il vous construit aussi une fusée pour vous faire rêver.
Ah bon, ça c'était génial.
Ah bon, pourquoi? C'était quoi la fusée?
Bah parce que c'était genre, en fait, ça pour le coup, j'ai un souvenir de ça. En fait, c'était un carton d'eau, je pense, des gros packs d'eau, des cartons de course. Dans lequel il y avait un joystick et tout, il y avait un écran en alu et genre, je me souviens avec notre voisin du dessous qui était son pote, qui était comme un cousin. Enfin, il faisait bouger le carton. Enfin, moi, je décollais.
C'est génial.
Il parlait au talkie-walkie. Enfin, vraiment, j'imaginais des trucs fous, quoi.
Et vous savez qui a commencé dans une fusée en carton?
Non.
Thomas Pesquet, qui est maintenant l'astronaute. Il a commencé comme ça.
Ouais, alors moi, par contre, je pense que je...
Vous êtes
ayant peur de l'avion, je pense que je vais rester
dans le destin. Au stade du carton.
Un autre destin. À l'école, Nora Hamzaoui, ce que vous supportez mal, ce sont les notes. Et puis, vous ne vous faites pas confiance quand il faut répondre sur l'ardoise en classe. Vous collectionnez les billes de cartouches d'encre. Et vous vivez comme beaucoup d'enfants qui passent après leurs grands frères et leurs grandes sœurs, la fameuse comparaison des profs. On vous rappelle que vous n'êtes pas aussi travailleuse que vos aînés.
C'est pas vrai, je connaissais pas ça. C'est un classique.
Bah quand on passe après les grands frères et les grandes sœurs.
Moi, j'étais l'aîné, donc je suis toujours. D'ailleurs, ça a pas changé. Hein. L'ordre ne change pas en cours de route.
Bah moi, j'étais surtout ultra. Ouais, j'étais paresseuse, j'aimais pas ça. Puis je pensais plus aux garçons au collège.
Ah oui, à partir de quel âge?
J'ai commencé à être amoureuse en moyenne section et après.
Moyenne section, c'est la maternelle.
Ouais.
Ouh là là.
Mais c'était pas genre des amours marquants. L'amour marquant, ça a été du CE1 au CM2, j'étais amoureuse du même garçon. Ce qui est quand même une relation très longue.
Très très longue.
Il nous écoute peut-être, il s'appelait comment?
C'est hyper gênant, il s'appelle Marc-Olivier Simon.
Il nous écoute.
Ouais, bah oui, je m'en souviens très bien, j'étais amoureuse de lui, on l'embrasse. J'étais amoureuse de lui, du CE1. Ça a été un drame quand au collège, j'ai appris qu'on n'avait pas dans le même collège. Enfin, bref.
Nora Hamzaoui, vous sentez que ce n'est de toute façon pas avec l'école et les bonnes notes que vous allez vous construire. Et puis vous êtes très pressée de quitter la maison, d'être indépendante. Vous avez envie d'être adulte. Par exemple, vous avez tellement hâte d'avoir votre propre appartement que vous vous achetez des bibelots avec votre argent de poche pour un jour, quand vous aurez l'âge, décorer ce futur appartement. Et ce besoin d'indépendance, il se nourrit là aussi de personnages de séries que vous regardez, comme l'inoubliable Angela Bauer dans Madame est servie. Nora Laura Hamzaoui, ado rebelle, vous faites percer le nombril sans que votre maman ne le sache. Après votre bac littéraire, vous faites 3 semaines de fac de droit, mais ça commence mal. Vous vous faites virer du premier TD parce que vous êtes retrouvée coincée derrière un camion poubelle. Vous êtes arrivée en retard et le prof n'a rien voulu savoir.
Ah ouais, non mais c'était atroce.
Moi j'y croirais pas non plus, hein, je peux vous dire.
Mais c'était vrai en plus.
Ouais, mais je sais, mais j'y croirais pas non plus. Je vous dis, c'est comme la couette de Jubilard, on n'y croit pas.
Ouais, et puis après, de toute façon, je crois que ça me saoulait.
Vous étudiez finalement la pub, puis la communication au CELSA. En parallèle, vous passez des castings. Et l'un des premiers que vous réussissez, c'est pour une pub d'une célèbre chaîne de fast-food. Nora Hamzaoui, sans le citer. Nora Hamzaoui, vous êtes tiraillée entre votre envie de vous lancer comme comédienne et la sécurité de l'emploi. Vous démarrez votre carrière au service web des Galeries Lafayette.
C'est pas vrai.
Mais ouais. Vous n'êtes pas à votre place. Vous passez votre temps à manger, à acheter des fringues et à vous plaindre de cette vie qui ne vous convient pas.
Ouais, c'est vrai.
Vous vous essayez aux scènes ouvertes après le travail jusqu'à ce que votre meilleur ami vous pousse à écrire et à vous lancer, enfin. Vous passez dans l'émission « On demande qu'à en rire ». Vous faites éliminer après plusieurs passages. Malgré les mots très durs du membre du jury Jean Benguigui, vous redoublez d'efforts dans l'écriture. Naît alors votre premier one-woman show et c'est un succès. Sur scène, vous êtes souvent stressée qu'on ne vous écoute pas, alors vous adoptez une diction très rapide. Et ce débit mitraillette devient votre signature. Vos chroniques à la radio, dans la presse puis à la télévision vous font connaître du grand public qui se passionne de votre regard sur tous ces petits détails qui nous rendent dingues, vos interrogations. Aussi, avec toujours une vraie liberté de ton, vous observez et vous dégommez. Et ça marche. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Oh là là, merci, c'est hyper sympa.
Merci
très gentil.
Beaucoup.
C'est assez troublant ce niveau de détail, mais vous avez bien enquêté.
Ouais. C'est de voir remonter les choses et les infos.
Ouais.
Et c'est drôle quand vous disiez, quand Lisa Marie disait que ce que vous aimiez, c'était vous plaindre de cette vie.
Ouais.
Je vous en parle parce que dans le spectacle, elle dit non, ce que je veux, c'est pas des solutions. Ce que je veux, c'est me plaindre.
Bah oui, parce que souvent quand on se plaint, les gens pensent que qu'on cherche une réponse. Ouais. Mais en fait, il y a aussi juste le fait de dire « Oh là là, je suis crevée ». Alors les gens disent « Bah, repose-toi ». Bah oui, enfin, tu vois, c'est... Et c'est ce même truc, c'est pas tout à fait le même mécanisme, mais ça fait aussi ça souvent quand t'as perdu un truc et que les gens disent « Mais tu l'as mis où la dernière fois que tu l'as utilisé ?» T'es là, si je savais où je l'avais mis, franchement, je ne l'aurais pas perdu. Donc,
on est tellement d'accord, est tellement d'accord. On marque une courte pause, Culture Média continue. Lisa Marie, je vous dis à demain.
À demain.
Nora Hamzaoui, je vous dis à tout de suite.
À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nora Hamzaoui, comédienne et humoriste. Son nouveau spectacle existe depuis 2 ans. Il y a le Covid qui est passé par là. Il est toujours là. Il s'appelle toujours Nouveau Spectacle, même si vous le travaillez évidemment au fur et à mesure. Il y a une tournée dans toute la France. Il sera à Paris le 25 et le 26 janvier, mais je donne expressément la date du 26, car vous serez en même temps en direct sur TMC. J'ai appris quelque chose grâce à vous. Vous racontez les dîners parisiens, les dîners bobos. Il y a un chemin de table. C'est quoi un chemin de table ?
Oui, je raconte les dîners d'adultes où il y a un truc qui change aussi beaucoup, je trouve, avec l'âge, où avant, on commandait des trucs et on mangeait à même la boîte. Et là, tout à coup, on se retrouve dans des beaux dîners où il y a un chemin de table. Et moi, je trouve ça toujours hyper irritant. Mais un chemin de table, c'est vraiment juste une sorte de mini-nappe qui fait, c'est vraiment comme son indique, fait le chemin de la table. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est juste... Et c'est qu'on est tellement tous devenus obsédés de déco et de d'art de la table avec Instagram et avec des trucs et tout que c'est voilà, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le niveau ultime du soin, quoi. Du soin de...
Vous êtes accro à Instagram ? Vous avez vraiment Instagrammé un guacamole chez des gens ou vous l'inventez pour nous faire rire ?
Je l'ai pas fait comme ça, mais c'est vrai que j'ai le réflexe de tout prendre en photo d'une manière vraiment parfois que je trouve con. Donc je sais pas si je l'ai fait, mais je pourrais complètement. Il m'est déjà arrivé de bouffer un truc et de le prendre en photo, de voir un truc, de le prendre en photo. Alors, je ne sais même pas ce que je vais en faire, mais c'est vrai que je trouve qu'on a des nouveaux réflexes comme ça qui sont...
Et les choses qui rendent con, j'adore ce dîner que vous avez où il y a une fille qui vous explique que c'est pas Internet qui rend con. Parce que vous dites Internet,
ouais.
Ça rend...
Ouais, parce qu'en fait, on parle de ces... Donc, on est dans ce dîner d'adultes. Moi, évidemment, j'ai bu, j'essaye de me donner une contenance. Et donc, à un moment, j'essaye d'expliquer que tous les problèmes du monde viennent d'une chose, c'est d'Internet. Et donc, cette meuf me reprend et elle me dit « C'est pas à cause d'Internet, c'est à cause de l'usage que tu fais d'Internet. » Et donc, je trouve qu'elle me dit ça avec ce petit ton insupportable, hyper méprisant, qui est juste un principe pour me reprendre, parce que évidemment que ça veut dire la même chose. Et je dis « Je ne supporte pas les gens qui me reprennent », alors que ça va, elle avait très bien compris ce que je voulais dire, quoi. Et je trouve ça hyper infantilisant. Et ça arrive souvent dans la vie. Tu t'exprimes, tu dis un truc et les gens sont là « C'est pas tout à fait ça que tu voulais dire. » Et ils précisent. Et t'es là, en fait, cette précision, c'est juste une manière... de me diminuer et de te mettre en valeur, qui est ultra irritante.
L'autre manière qui diminue beaucoup de gens, c'est la fille en bout de table que vous racontez, qui dit « Sinon, vous avez lu le dernier papier du Times ?»
Ouais, pareil, où t'es là, bon, écoute, t'as envie de lui dire non, l'a pas lu, toi, oui, bravo et tout. Et on a envie de dire, bon, bah, parle de ce don. Et ça, c'est aussi un des trucs, un des traits où je parle des dîners d'adultes, où je dis, moi, je me suis rarement sentie aussi con, grande nouveauté de la trompette, parce que tout le monde a un point de vue, que tout le monde donne son avis sur tout.
Et juste un mot, pourquoi vous dites un dîner d'adultes? Parce que moi, c'est une expression que j'employais avant mes 12-13 ans. Mais vous êtes adulte depuis longtemps.
Et bah parce que je trouve qu'il y a eu vraiment un truc qui a changé, qui a switché. Peut-être, je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est la parentalité.
Les dîners de parents.
Ouais, peut-être les dîners de parents aussi. Mais aussi l'installation, le couple d'amis. Le truc où peut-être aussi le fait de s'installer, de ne plus être dans des studios, d'être dans un petit appartement, on veut montrer. C'est un espèce de truc de représentation de soi. Quoi.
Dans le spectacle, vous ne comparez pas les couples, vous ne comparez pas les pères. Mais alors, vous comparez tout le temps aux femmes. Pour quelle raison?
Ouais. Bah déjà, je pense parce que je les aime beaucoup, que j'imagine forcément qu'elles sont mieux que moi. Et que...
Ça, elle est mieux que vous. La féministe qui fait des photos d'elle en Grèce et qui dit Simone Veil.
Ah oui, à Mykonos, dans un maillot de bain trop petit pour elle, mais il n'y a rien qui dépasse. Ouais. Ça, c'est ultra irritant, mais parce qu'en fait, Internet et cette société nous poussent à nous comparer en permanence. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire « Ok, très bien, on est sorti des dictats, des trucs de la féminité, on ne s'accepte plus, il y a plus de trucs. » Mais n'empêche qu'il n'y a que des meufs filtrées qui ont toutes la même tête sur Instagram, qu'elles font à peu près toutes la même chose, qu'il y a un truc d'uniformité.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous n'en êtes pas dupe. Pourquoi ça vous fait du mal? Puisque vous savez que c'est filtré et que c'est trafiqué.
Parce que je pense que je suis un peu comme tout le monde, et le personnage encore plus parce que je l'étire, mais c'est qu'elle aussi entre un désir de critiquer et l'envie d'en être, quoi. Et moi, c'est exactement pareil. Genre, vraiment, il y a des moments, que ce soit le couple et la vie privée, un peu moins là-dessus, je suis assez radicale. Mais par exemple, une photo où on se trouve bien, moi, parfois, je me dis, attends, moi aussi, j'ai envie d'avoir une photo un peu bonasse sur une plage pour que les gens y like et tout, alors que je sais bien que ce truc-là est non seulement est vain et puis impudique, et puis c'est délirant de se dire que des likes vont nous rendre heureux, quoi. Mais donc voilà, c'est vraiment cette espèce de truc qu'on se dit, si le monde est comme ça, bah pourquoi moi j'en ferais pas partie, quoi.
Vous donnez une définition de la meuf parfaite, je voudrais finir cette partie là-dessus. Une meuf parfaite, c'est cette meuf, quand la télécommande ne marche pas, elle change les piles.
Ouais, pas hallucinant. Moi je ne change pas les piles, non, moi je n'ai jamais changé des piles de ma vie. Je crois que je ne sais même pas où on achète des piles. Moi, je tape dans la télécommande. Je fais des à-coups avec la télécommande. Je la tape contre mon front. Je la tape contre mon genou. Franchement,
ça remarche.
Et ça remarche. Et ça a toujours. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que ça marche comme ça, quoi.
Il y a peut-être d'autres mecs qui changent les piles en douce, non?
Ah non. Ben non. Charge mentale incroyable. Je pense que c'est pour qu'il change les piles, il faudrait que je lui dise, est-ce que t'as pensé à aller changer les piles? Je vais le faire. Non, non, il change pas les piles en douce. Je change les piles en. J'ai un pouvoir sur les piles en juste tapant dessus. Quoi.
Nora Hamzaoui, c'est la seule personne qui a encore des piles Vondère qui n'existent plus depuis 20 ans dans sa télécommande. Vous lisez des mangas ou pas du tout?
Un peu.
Eh bien justement, on va parler de mangas. Caroline Spaller arrive, Culture Média continue. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
En compagnie de Nora Hamzaoui, son nouveau spectacle, c'est sur TMC. Ça sera le 26 janvier, ce sera en direct, ce sera à 21h. Vous allez être obligé d'être à l'heure.
Ouais, je vais être obligé d'être à l'heure, je vais être là un peu avant. Je vais être la même chose.
J'espère que vous arrivez un peu avant. Non, mais on imagine la comédienne qui arrive à la seconde même du début du spectacle.
Bon, bah, pourquoi pas? Normalement, je fais ça pour pas avoir de
trac.
Ouais, j'arrive
c'est pas
au
vrai.
Dernier moment. Ouais, parce que si je reste trop longtemps là, je cogite, mais là je cogiterai, mais je vais.
Ah, vous êtes lanti, Francis Huster. Francis Huster, il dormait dans sa loge pour être sûr d'être là et d'être concentré, d'être dans son rôle.
Bah ouais, bah.
Vous, c'est l'inverse. Vous changez les piles de la télécommande. Voilà. Caroline Speller, bonjour.
Bonjour.
On va parler de manga avec vous. Est-ce que vous lisez des mangas?
J'ai commencé là, je commence à lire un manga qui s'appelle, enfin j'en ai lu certains, mais là en ce moment je lis Natsuko no Sake, qui est sur une famille qui fabrique du saké, parce que je me suis découvert une
passion
pour le saké. Et donc du coup voilà, ça raconte cette histoire familiale autour de la distillerie, je pense qu'on dit.
Ou comment se donner bonne conscience après 8 verres, non
présente. Ouais. Non, bah, c'est délicieux le saké, bref, il est tout pour en parler.
À consommer avec modération, je suis obligé de le dire, le CSA nous écoute et ils ont bien raison de nous écouter. Caroline, aujourd'hui vous nous présentez un manga absent des librairies françaises depuis 10 ans, manga qui fait son grand retour.
Oui Philippe, ce manga des années 70, écrit par Kazuo Koike et dessiné par Goseki Kojima, c'est Lone Wolf and Cub. En gros en français, ça veut dire le loup solitaire et son petit. Panini ressort ce manga dans une édition prestige en 12 volumes de 600 pages chacun.
Alors 12. Oui.
Là, vous avez un pavé, c'est les 600 pages.
Oui, c'est ça. Et là, ce n'est qu'un seul volume.
C'est le tome 1.
Il y en a 12. Alors oui, il est imposant par son format, mais ce manga est aussi imposant car il est culte. Culte déjà parce que sa reconstitution historique du Japon féodal de la fin du XVIIe siècle, tout y est représenté. Les décors, les mentalités et les traditions de l'époque, l'opposition des classes et évidemment les combats de guerriers japonais.
Et les guerriers de l'époque au Japon, ce sont les samouraïs.
Tout à fait, Philippe. Et Lone Wolf and Cub nous raconte le destin d'Ogami Ito, un puissant samouraï. Victime d'un complot, il perd tout. Son pouvoir, son honneur, sa famille est massacrée, sauf son fils de 3 ans. Ce samouraï déchu choisit la voie de la vengeance et devient un mercenaire. Il parcourt le pays avec son fils dans un landau, avec une bannière où il est écrit « Fils à louer, sabre à louer ».
Ça, c'est que le premier tome ou c'est tous les tomes?
Non,
juste
ça,
cette histoire.
C'est que le premier tome.
Alors, c'est un manga culte, vous nous l'avez dit, et il y a une grande communauté de fans.
Et c'est peu de le dire, car c'est une véritable icône culturelle au Japon. Ce manga a rencontré aussi un vrai succès aux États-Unis. Il inspire des grands noms du comics comme Frank Miller, auteur de Batman, The Dark Knight ou Sin City, pour son comics Ronin, un récit sur un samouraï banni. Côté cinéma, Quentin Tarantino, amoureux de la culture japonaise, rend hommage au manga dans ses films Kill Bill. Et l'influence s'étend même au rap des années 90. Des dialogues du film Shogun Assassin adapté du manga sont utilisés dans l'album incontournable Liquid Sword de The Genius, fondateur du groupe hip-hop Les Wu-Tang. That was the night everything changed. Sometimes we gotta fast and fast. You niggas know where this shit started. Y'all know where it came from. I'm saying we're gonna take y'all back to the source. Good night. Yo. When the MCs came, tell them about their names. And to perform, some had to smoke cocaine to act the same. Aujourd'hui encore, ce manga continue d'inspirer, comme dans la série Star Wars Disney, le Mandalorien. 5 ans après la mort de Dark Vador, on suit les aventures d'un chasseur de primes qui sauve un enfant de la même espèce que le maître Yoda.
Tu es vraiment exceptionnel, petit. On va trouver l'endroit d'où tu viens et les tiens prendront bien soin de toi. On m'a chargé de remettre cet enfant au Jedi. Il a besoin de votre aide.
L'ordre Jedi est tombé il y a bien longtemps.
Tout comme l'Empire, mais il le traque toujours.
Et longue vie à l'Empire.
Mais au-delà de toutes ces influences, ce manga, c'est avant tout un récit puissant d'un père et son fils seuls face à un monde hostile et violent qui reste uni dans la violence et dans la vengeance, surtout. Sous le sang et la mort de Lone Wolf and Cub, il y a une vraie poésie, et ça, je vous le garantis.
Merci beaucoup, Caroline Speller. 600 pages, c'est beau, hein ?
Ouais, ça a l'air super.
C'est en noir et blanc, c'est un dessin d'une précision assez exceptionnelle qui ne ressemble pas au manga auquel on est habitué.
Non, c'est plutôt un manga
avec
adulte.
Avec les grands yeux.
Voilà, c'est plutôt un manga adulte,
c'est
avec de la violence.
Je me souviens plus, combien de tomes vous avez dit ? 10 tomes ?
Il y a 12 tomes.
12 tomes fois 600 pages.
Attendez,
ça fait 7200 pages, c'est pas possible.
À peu près 8000 pages, oui.
D'accord, ouais.
Génial.
Il y a toujours une connasse dans un dîner qui dit les mangas, je les lis en japonais. Je fais mon Nora Hamzaoui.
C'est clair.
Hein, c'est vrai ou pas?
Ouais, c'est vrai.
Il y a toujours une pour te dire ça. Culture Média continue, Caroline Speller, je suis content de vous avoir fait rire. On va continuer en musique, c'est Grégory Porter sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nora Hamzaoui, on parle de son nouveau spectacle, mais pas seulement. C'est dans toute la France, ce sera à Paris et ce sera également sur TMC. Donc à Paris et dans toute la France, en direct, le 26 janvier. Pourquoi il y a si peu de textes, ou même pas du tout, politisés dans votre spectacle ?
Parce que déjà, je pense que c'est un humour d'autodérision, donc j'aime bien parler plutôt de l'intime et de ce qu'on ressent plutôt qu'un humour juste d'observation où ce serait froid, et puis que de toute façon, ça ne m'amuse absolument pas ce qui se passe en politique, et que souvent, je dis que j'ai besoin de recul pour parler de ce qui me fait rire, et la politique, c'est tellement l'instant présent que... Voilà,
ce qui est savoureux, parce que vous avez longtemps travaillé au quotidien.
Ouais.
Qui justement fait son miel de ce qui se passe dans la politique et que les travers des uns et des autres. À Télérama, cet été, vous avez dit « Mon spectacle n'a pas de mise en scène pour être au plus proche du public ». Alors moi, je ne suis pas du tout professionnel, ça veut dire quoi ? Et par opposition, c'est quoi un spectacle avec une mise en scène ?
Bah, disons que je voulais quelque chose de le plus réel possible, le plus spontané possible, sans donner de mode d'emploi au public. C'est-à-dire que j'aimais vraiment l'idée que ce soit juste moi sur scène, avec pas forcément un costume, pas de musique, pas de lumière spéciale. Vraiment juste un plein feu.
Ah, je dois dire que ça fait plaisir. Je dois dire que ça fait plaisir de ne pas entendre les gens qui arrivent sur du hard rock et qui crient « Ça va, Clermont !»
Ouais, bah c'est ça. De toute façon, je serais incapable de faire.
Ça, je peux plus. La première fois, j'étais impressionné, mais là, j'en suis à la 108e fois, j'en peux plus.
Mais il faut pouvoir le faire. Hein. Moi, ça, je trouve ça extrêmement embarrassant. J'aurais toujours peur qu'on ne me réponde pas. Et puis,
Votre précédent One Man Show avait cette particularité. Vous le déconseillez aux moins de 15 ans.
Celui-ci. En fait, c'est celui-ci.
Ah, c'est le précédent, mais comme c'était avant le confinement, j'ai cru que c'était le même. C'est cru que c'était un autre.
Ouais.
Il est déconseillé.
Je le déconseille au moins de 15 ans parce que justement, sur le premier spectacle, et comme j'étais chez Quotidien, qu'il y avait un moment où je répondais aux enfants à une heure de grande écoute, je me suis retrouvée à avoir pas mal de familles dans la salle qui s'attendaient que à ce que je réponde à leurs questions, où là, finalement, je racontais des boires sur ma vie sentimentale ou sexuelle, et donc du coup c'était extrêmement gênant. Et après il y avait plein de parents qui étaient là, non mais nous ça nous dérange pas et tout, mais quelque part je crois que moi ça me dérange parce que je me retrouve en culpabilité de me dire oh là là, et les enfants comment ils vont le prendre, et les parents je sais pas quoi. Donc là je le déconseille, et c'est une manière de dire aux gens bon bah vous prenez vos responsabilités, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de grave s'il y a un enfant dans la salle, mais c'était, le propos n'est pas fait pour lui, quoi.
Et vous n'allez rien changer pour le passage télé du 26?
Non.
Vous n'allez pas censurer?
Non, bah non.
Hein, y compris le suicide à l'ampoule, j'en dis pas plus, je dis pas ce qui va se passer. Les projets?
Les projets,
vous êtes dans tellement de films, j'en reviens pas.
Bah ouais, mais bon, faut qu'ils sortent. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid.
Ah, ils ont été tournés déjà. Ouais. Il y a un Doyon,
ouais.
Un Laetitia Masson, ouais. Et la nouvelle série d'Olivia Sayas, racontée.
C'est une série pour HBO qui est une adaptation de. Enfin, une adaptation, c'est une version série de son film, inspirée de son film Irma Vep à l'époque avec Maggie Cheung en 96. Et là, sauf qu'à la place de Maggie Cheung, c'est Alicia Vikander. Ouais. Et j'ai pas tellement le droit d'en dire plus parce que c'est le gros projet américain et tout, mais je suis hyper contente.
Ah, c'est américain?
Ouais.
Parce qu'il y a Vincent McCain, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Hippolyte Girardot. Ouais. Il y a aussi des noms américains, mais j'arrivais pas à les prononcer. Ouais. Je voulais pas me taper la honte devant vous.
Bah, Alicia Vikander, c'est bien.
Voilà, c'est très bien. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray et Nora Hamzaoui. Tous les jours, il y a des célébrités qui viennent rencontrer notre invité. Et ce matin, Pascal Pro est là spécialement pour vous.
Bonjour les gauchias. J'ai pas pu m'empêcher de venir pour observer la bien-pensance de France Inter de mes propres yeux. C'est super des paysans, merci pour l'invitation, j'ai l'impression d'être à Beauval. J'ai presque envie de vous lancer les petites cacahuètes, enfin plutôt des graines de chia et du quinoa. Quel beau spectacle.
Votre ancien patron, Yann Barthès, a tenu à venir vous saluer,
oui,
Nora.
Oui, et bonjour Philippe et bonjour Nora. Ouh là là. C'est vrai que Nora faisait des chroniques dans Quotidien où elle répondait aux questions des enfants. D'ailleurs Nora, si tu es d'accord, j'aimerais te proposer de faire une nouvelle chronique où tu répondrais cette fois aux questions des personnes âgées. Et on commence avec Michel Drucker, 50 ans. De carrière.
Bonjour Nora. On dit que les personnes âgées perdent un peu la boule. Donc j'ai une question. Est-ce que tu sais où j'ai mis mes lunettes parce que je vois rien avec mon slip sur les yeux?
Je vous rassure Nora, vous n'êtes pas obligé de répondre. Question de Cyril Lignac.
Salut Nora. Moi je suis pas vieux.
J'adore.
Mais c'est la question des mercottes. Elle devait venir ce matin, mais elle a été retenue par une grande dame habillée tout en noir avec une faux. Je sais pas si vous la connaissez.
Oh.
Alors voici sa question. Je veux absolument que tu demandes à Nora si. Et là, elle s'est endormie.
Merci Cyril. Question maintenant d'un top modèle et influenceur, Jean Benguigui.
Ah, c'est honteux. C'est honteux. Honteux de dire ça. Je suis pas top modèle. Je suis mannequin. Bonjour Nora. C'est Jean.
Bonjour Jean.
Ton grand ami. Ton sauce. Je te remercie. Car grâce à toi, on parle de moi parce que prononcer Jean Benguigui en 2022, c'est pas une pub. C'est un miracle. Là, on ne demande qu'à en rire. J'avais dit que tu ne savais pas porter une robe. Mais rassure-toi, je ne sais pas porter de cheveux.
Excusez-moi de vous couper, c'est Samuel Etienne. Pour votre nouvelle chronique, Nora, avec Question pour un champion, j'ai un stock de vieux inépuisables. Enfin, inépuisables si la pandémie continue. Pour réussir à faire de l'audience, je vais devoir importer du vieux d'autres pays ou faire du casting sauvage. D'ailleurs, Philippe, vous faites quoi ce soir?
Je veux dire ce que je fais. Ce soir, je regarde la nouvelle série romantique de France 2, L'amour presque parfait, parce que demain, on serait avec les comédiens Tom Leb et Maud Becker.
Ça, c'est un enchaînement.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. Merci d'avoir été avec nous, Nora Hamzaoui. Et puis, il y aura également demain, à 9h, dans Culture Média, le comédien Jean-Pierre Daroussin. Il rallume le mythe de Rimbaud dans un seul en scène. Ça s'appelle Rimbaud en feu. Elles sont dans ce studio. Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Le programme du jour.
Alors, on va parler d'un très bel organe que vous
vous possédez, Philippe. On va
surtout
parler
de Marc-Antoine.
Ah oui, surtout Marc-Antoine, vous avez raison.
C'est... Vous avez des infos.
Bah oui. C'est la voix. La voix, comment prendre soin.
Je savais
soin.
Que c'était ça. Vous c'est aviez... pour ça que j'étais tranquille.
La voix, comment prendre soin de sa voix ouais. tout au long de sa vie. On aura une spécialiste avec nous pour nous parler de tout ça.
Voilà, une médecin phoniatre sera avec nous. Et puis dans le dossier santé du jour, on va parler d'une maladie qui touche énormément de Français, des millions de Français, même l'arthrose. Et vous savez quoi, depuis 2 ans, notamment avec le Covid et les confinements, ben, l'état de ces patients s'est nettement détérioré. Donc on va faire
là,
un point
Philippe.
Sur tout ça. Voilà. Ça c'est pour vous Philippe.
Pas du tout, ni problème de voix, ni problème d'arthrose. Merci pour cette sollicitude, je vous dis à demain. Merci encore Nora.
Merci Zawi. À vous.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.